Les infos choisies.
Chaque vendredi de 12h30 à 13h.
Sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies. Et bonjour.
Salut tout le monde.
Bienvenue aux infos choisies, il est 12h passé de 32 minutes, nous sommes le 18 octobre 2024, vous nous écoutez donc sur Radio Galère à Marseille et sur Ayoli FM en Avignon, bien sûr sur le site internet partout ailleurs, et on va tout de suite commencer par un petit édito.
Salut tout le monde, ici Poppy, et oui on est 18 octobre, hier on célébrait le triste anniversaire en mémoire des victimes du 17 octobre 1961, le massacre des Algériens et des Algériennes à Paris, dans la Seine, orchestré par ce connard de préfet Maurice Papon, qui était à l'époque préfet de Paris. Donc le 17 octobre 1961, c'est des milliers d'Algériens et d'Algériennes qui manifestent à Paris contre le couvre-feu qu'on leur a imposé dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et bien entendu, la flicaille sous les ordres du préfet et très certainement de personnes plus hautes placées n'ont pas hésité à noyer, assassiner, emprisonner et torturer des personnes qui étaient présentes à cette manifestation. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait, qui a été réalisé entre octobre 1961 et mars 1962, qui s'appelle « Octobre à Paris ». Et il est présenté par le comité Maurice Audin et Vérité, Liberté, et donc c'est des témoignages notamment de personnes qui étaient présentes à cette manifestation. Et voilà. Ensuite, voilà, hier il y avait à Marseille une manifestation, une marche en mémoire des victimes d'octobre 1961, et aussi contre le racisme et le colonialisme, car comme nous le rappelle le texte d'appel à cette manifestation, 40 ans plus tard, le racisme et le colonialisme ne se sont pas arrêtés, mais les résistances non plus. Et on a d'ailleurs un contexte de résistance assez global, notamment avec la lutte en Kanaky contre l'État colonisateur français qui continue, même si dans les médias, on essaie un petit peu d'étouffer la révolte. Mais aussi en Martinique, avec le mouvement appelé Contre la vie chère, mais qui est en réalité pas seulement un mouvement contre la vie chère. Et ça, c'est les Martiniquais et Martiniquaises qui le disent elles-mêmes. C'est aussi un mouvement anticolonial, évidemment, parce que le système qui est en place actuellement en Martinique, il est directement hérité de l'histoire coloniale. Désolée, mon édito est un peu chaotique. Excusez-moi pour les auditeurs et les auditrices, c'est un peu fou, speed aujourd'hui. Bref, voilà, du coup, le système qui est en place, il est directement hérité du système colonial. Donc, ce n'est pas simplement contre la vie chère, c'est aussi pour dénoncer tout un système. Voilà, tout comme le peuple kanak aussi dénonce la colonisation de l'État français en Kanaky. Ensuite, évidemment, on pense toujours à la Palestine et au Liban et aux luttes de résistance contre les États colons et impérialistes. Voilà, et je pense que dans un contexte, et c'est aussi dit dans l'appel pour cette manifestation, dans un contexte où notre gouvernement est de plus en plus d'extrême droite et il y a une montée des idées réactionnaires, c'est super important de soutenir les luttes décoloniales, anti-impérialistes, et aussi d'affronter le récit colonial de l'État français, surtout quand on a des Bruno Retailleau qui se permettent de parler des belles heures de la colonisation à la radio.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
infos
30.
Choisies, vendredi, midi 30.
Et dans ces infos choisies aujourd'hui, nous accueillons deux personnes qui vont nous parler de la lutte Notav. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
C'est une belle épine dans le pied des gestionnaires depuis plus de 30 ans. Cette histoire, vous allez un peu nous la raconter. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous dire de quel collectif vous faites partie?
Alors, moi, c'est Louise.
Moi, c'est Michel.
Et donc, on fait partie de la lutte enchantée, qui est une chorale assez vieille de Marseille, qui est une chorale militante Et en fait, les chorales militantes se retrouvent une fois par an pour des rencontres nomades de chorales révolutionnaires. Et cet été, donc, on avait choisi d'aller en Maurienne. Ces rencontres nomades sont toujours en soutien à une lutte. Et donc, cet été, on est allé en Maurienne pour soutenir la lutte contre le Lyon-Turin. Et bon, on avait déjà quelques notions sur cette lutte, mais bon, c'est loin, c'est tout ça. Et en fait, on a appris beaucoup de choses intéressantes et aussi assez déprimantes.
Et j'attendais que Michel dise quelque chose, mais on peut enchaîner. Alors, est-ce que, donc on va revenir vraiment là sur les 30 ans de lutte. Donc, qu'est-ce que c'est que déjà que ce grand projet inutile ?
Alors, c'est un projet de l'État français et de l'État italien qui vise à la création d'une ligne grande vitesse, une ligne ferroviaire entre Lyon et Turin, et qui viendrait se substituer à une ligne déjà existante. Et c'est une ligne sur laquelle passeraient à la fois des marchandises et des passagers. Et elle nécessite la création de plus de 150 km de tunnels sous des massifs montagneux, avec aussi des galeries techniques d'accès qu'on appelle des descendries.
Sachant aussi, pour rappel, que les tunnels, c'est un des trucs techniques les plus durs à faire, plus dur qu'un pont, technologiquement parlant.
Oui, et d'ailleurs, le plus long tunnel du monde de 57 km serait créé à l'occasion de ce projet. Et l'objectif affiché de ce projet, c'est à la fois de reporter le transport routier, donc les camions, vers le rail, de réduire le temps de trajet. On verra que tout ça, c'est un peu sujet à controverse. Et d'améliorer le bilan carbone du coup, des transports transfrontaliers dans une vallée qui est très exposée, la vallée de la Maurienne et la vallée de Souza, côté italien.
Peut-être on peut revenir, refaire un peu l'historique de cette lutte.
Alors, c'est une lutte qui... Enfin, pas la lutte, mais en fait, le projet lui-même commence à la fin des années 80, grâce au maire de Chambéry, Louis Besson, un socialiste. Et à la base, ce projet n'était pas pour transporter les marchandises, mais pour faire une ligne à grande vitesse passager pour desservir Grenoble et Chambéry. Le projet a un petit peu stagné. Et en... 99, non c'est même un petit peu avant, 97-99, ça évolue donc vers le fret, et il y a un truc qui arrive assez mortel, c'est le cas de le dire, le 24 mars 99, c'est l'accident du tunnel du Mont-Blanc, où il y a eu 39 morts, et donc le tunnel a été fermé pendant 4 ans, et c'est à cette occasion que le projet a repris, et... comme c'était déjà le cas quelques années avant, en évoluant vers le fret. Le début du creusement de la première galerie de reconnaissance côté français, donc c'était en 2002-2003, à côté de Modane, à Villaraudin-Bourget. Ce que j'oublie de dire, excusez-moi, c'est que en 99, après l'accident du tunnel du Mont-Blanc, tous les camions sont déviés sur la Nationale en Maurienne, ça fait donc plein de camions qui passent, ça a été insupportable pour les Mauriennais et c'est pour ça que les promoteurs ont pu relancer le projet avec d'autant plus de facilité, avec l'émotion qui s'était créée suite à ça et la détérioration environnementale. Voilà en gros pour le... Ah oui, et en 2021, donc on a le percement du tunnel de base côté français.
Et aussi, on peut dire, on va revenir après dessus, mais bien sûr qu'il y a un historique de lutte lié à l'historique de la construction, surtout côté espagnol dans le Val de italien n'importe quoi dans le Val de Souza, alors que je veux dire, il y a eu des luttes côté français, mais elles ont peu été massives, contrairement à l'occupation. On reverra après. Il y avait une question que vous vouliez aborder, c'est ce projet peut sembler écolo, puisque c'est un projet de train, pourtant il ne l'est pas. Et du coup, pourquoi pour avoir un peu de l'argumentaire.
Oui, il peut sembler écolo. Et d'ailleurs, au démarrage de ce projet, donc c'est un de ces grands projets finalement inutiles de la France qui remonte à plusieurs décennies, maintenant quasiment 30 ans. Il y avait toute une partie des écolos qui étaient favorables à ce projet parce que les prévisions, notamment de trafic transfrontalier, étaient vraiment à la hausse par rapport à ce qui finalement s'est réalisé. Donc aujourd'hui, il y a tous les arguments qui pouvaient sembler notamment écolo et économiquement intéressants au début, qui se sont petit à petit en fait cassés la figure au fil de ces 30 ans. Notamment du coup le trafic de marchandises qui a été réduit de moitié par rapport aux prévisions. Et qui font que la ligne déjà existante, qui est une ligne historique, en fait, elle remonte au 19e siècle, c'était la première ligne transfrontalière, en fait, elle est aujourd'hui en sous-utilisation importante. Aujourd'hui, elle transporte grosso modo 3,4 millions de tonnes de marchandises par an, alors qu'elle pourrait monter jusqu'à 17 millions ou plus. Donc il y a toute une partie des camions qui actuellement circulent sur l'axe Lyon-Turin qui pourraient passer sur du fret ferroviaire. Mais par manque notamment de politique globale de développement du fret, que ce soit côté français ou côté italien, du coup cette ligne elle est vraiment sous-utilisée. Donc alors il y a eu des travaux déjà, un milliard de travaux sur cette ligne. Et en fait, aujourd'hui, avec 3 milliards de plus, elle pourrait atteindre un niveau de qualité et d'attractivité par rapport aux routiers qui lui permettrait vraiment d'être déjà beaucoup plus attractive. Donc on parlerait de 3 milliards versus aujourd'hui 30 milliards d'euros qui doivent être mis sur la table pour le projet Lyon-Turin. Donc un des arguments importants aussi, c'est que économiquement, en fait, avec 10 fois moins, on pourrait avoir une mise à niveau de cette ligne. Cette ligne qui va créer et a déjà commencé à créer des problèmes écologiques importants. En fait, c'est un énorme chantier, ce Lyon-Turin, qui touche à l'eau. Et on en entend beaucoup parler de l'eau, mais notamment dans les montagnes. En fait, les quelques tunnels techniques qui ont déjà été créés ont notamment asséché des sources sur les hauteurs, là où, pour les habitants, c'était inimaginable qu'à un moment, il puisse ne plus y avoir d'eau. Donc, il y a par exemple des villages qui, maintenant, sont desservis en eau par des aqueducs qui ont dû être créés pour remplacer les sources. Voilà. Et des problèmes d'eau, il y en a beaucoup à venir parce qu'il faut détourner d'une certaine manière l'eau quand on crée un énorme tunnel comme ça. Il y a une problématique de déforestation. Il y a 1500 hectares de terre qui doivent être artificialisées. Qui dit déforestation dit aussi potentiellement érosion au niveau de la montagne. Après, il y a des problématiques liées à l'amiante et à l'aluminium présentes dans les roches. Et en fait, là, on parle de millions de tonnes et de mètres cubes de roches, de gravats qui vont être excavés et qui vont devoir être transportés quelque part. Donc ça veut dire des balais incessants aussi de camions pour transporter ces gravats. Et peut-être je vais laisser parler Louise qui a été sur un des chantiers. Et sur ce que ça donne concrètement dans le paysage.
C'est impressionnant. Juste avant, je voulais rajouter quelques exemples, quelques détails. C'est surtout qu'on ne touche pas à la montagne sans conséquences. Notamment, je crois que c'est EDF qui a fait une étude sur les barrages qui sont en amont des chantiers. Et ils ont constaté que sur un barrage, notamment, il s'était affaissé de 7 cm. Donc, moi, ça ne me rassure pas du tout. Mais et pour dire, donc, quand on est allé en Maurienne, on vous expliquera un petit peu nos péripéties par rapport à ça et aux rencontres nomades. Mais ce qui saute aux yeux quand on arrive, donc vers Modane notamment, c'est que la montagne, elle est mais massacrée. Quoi. C'est vraiment c'est difficile, même émotionnellement, de voir ces paysages qui ont été super beaux, de les voir massacrés par tous ces chantiers. Il y en a partout, là, vers donc Modane, Villarodin-Bourget, où il y a eu les premiers travaux. Et, Et il y a aussi les gens qu'on a pu rencontrer, des gens qui vivent là depuis des années, leurs familles sont nées là, et ces gens-là se font expulser. Ils sont obligés de trouver un nouvel endroit pour installer leur, leur activité professionnelle, qui se trouve face au chantier. Donc en fait, ces gens-là sont, sont entourés de cette catastrophe écologique, économique, et ils le portent vraiment en eux. Et pour avoir rencontré ces gens-là, alors que ça fait 2-3 ans qu'ils ont été expulsés, il y a quelque chose de, d'une tristesse inconsolable, je pense.
Et d'ailleurs, ça fait écho aussi à tout, à, au monde entier, parce que souvent, l'enjeu de voir ces luttes-là aussi sur nos territoires, ça rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui sont... beaucoup de nos outils qui sont importés et sur toutes les carrières, sur un certain nombre, de les totales, etc. C'est beaucoup de territoires qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont aussi qui ont, dans une situation écologique hyper précaire et merdique, et où la santé des habitants l'est aussi. Du coup, ça, ça fait petit lien sur le colonialisme global. On va faire une petite pause musicale. On va plonger dans les années 80. Guiuni, Rousseau, Crisi Metropolitana, tout de suite sur Radio Galère. Choisis, nous parlons de la lutte notave et justement des accidents sur les chantiers. Tu voulais en dire quelques mots ?
Oui, malheureusement, c'est comme plein d'autres énormes chantiers. On a vu ça sur les JO à Paris. Mais en fait, depuis 2023, sur les chantiers de Telt, en fait, c'est Telt, l'exploitation du Lyon-Turin, il y a déjà eu 3 morts, en fait. Voilà, donc ça, c'est aussi une... une bonne raison de se battre contre ce projet qui va sûrement en faire d'autres, quoi.
Et donc là, un peu concrètement, actuellement, où en est la lutte donc dans le Val-de-Souza, mais aussi en France, si vous voulez nous en parler?
Eh bien, dans le Val-de-Suse, parce que comme tu disais, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé mi-90. Il faut savoir que en Italie, pour l'instant, enfin dans le Val-de-Suse, il n'y a que des tunnels d'exploration, pas de tunnels d'exploitation. Les Italiens, ouais, sont vraiment rassemblés à nombreux et nombreuses, notamment. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'avais perdu le fil. Notamment, il y a beaucoup de gens. Donc, le Val de Suse, c'est pas du tout comme la Maurienne. C'est pas une vallée industrielle. C'est une très belle vallée, campagne, campagne de montagne. Et donc, il y a plein de gens, plein de militants et de militantes qui sont venus s'installer ici pour défendre la lutte. Il faut savoir que la lutte en Italie, elle est très, très réprimée. Les chantiers sont carrément militarisés. Et en fait, les Italiens s'étaient organisés donc pour habiter à côté des chantiers. Ils avaient créé des, je ne sais pas si on peut comparer ça à des petites ZAD, mais des présidios, donc où ils se retrouvaient tous. Et pour vous dire à quelle échelle ils sont nombreux, nombreuses dans la lutte, en 2018, ils ont fait une manif notable et ils étaient 70 000. Donc c'est un petit peu démesuré par rapport à ce qui se passe en France.
Après, en France, quand il y a des manifs, les flics bloquent tous les cars de toutes les villes qui viennent. C'est une belle manière d'empêcher les gens d'arriver jusqu'à destination. Mais bon.
C'est sûr. Mais on n'est pas encore dans le... Quoique ça peut être les gendarmes, on n'est pas toujours dans le monde militaire et dans les outils militaires.
Non, tout à fait. Ouais.
Alors justement, par rapport à l'état des lieux de la lutte, donc ça c'était pour le côté italien. Côté français, donc... Il y a toute une organisation en ce qu'on appelle les CCLT, les comités contre le Lyon-Turin. Il y en a une dizaine. Ils ne sont pas tous qu'en Maurienne, parce qu'on sait très bien que ça va s'attaquer à d'autres vallées. Notamment, il y a deux autres tunnels en Beldon et en Chartreuse. Donc, les gens s'organisent aussi en amont. Il y a peu de communes qui sont contre, parce que, notamment en Maurienne, il n'y a pas beaucoup de boulot. C'est une vallée très désindustrialisée. Il y avait beaucoup d'industries hydroélectriques, il y avait de l'aluminium, je crois qu'il y avait du graphite aussi. Et les gens là-bas disent qu'en fait, la vallée de la Maurienne, c'est une vallée de passage et une vallée de main-d'œuvre pas chère, en fait. Donc, qui est pour le moins pas trop considérée. Voilà, du coup, il y a eu l'événement des soulèvements de la terre en 2023, donc 17-18 juin de mémoire, donc où il y a eu 5000 personnes. Mais enfin, c'est pas tout simple non plus les manifs là-bas, parce que la population n'est pas acquise. Et c'est vrai que la manif avec les soulèvements de la terre, ça a été un petit peu de comment on dit, sabotage, c'est le plus correct, je pense. Et du coup, c'est des choses que les gens doivent réparer derrière. Donc ils disent, oh là là, quand même, les manifestants, quand même, ils font n'importe quoi et tout. Mais bon, quand on leur rappelle le nombre de blessés, c'est vrai qu'ils disent, ouais, c'est vrai quand même. Mais bon, voilà.
Donc de l'action directe pour s'opposer concrètement au chantier, c'est important aussi, il en faut pour tenir les luttes. Michel, donc.
Oui, d'ailleurs, les collectifs contre le Lyon-Turin organisent des espèces de toxic tours pour faire connaître la situation concrète sur les chantiers. Et du coup, il commence vraiment à y avoir, notamment particulièrement depuis l'événement des SDT l'année dernière, une ouverture.
Les soulèvements de la terre, pardon. Vas-y.
Pardon. Une ouverture médiatique, un intérêt médiatique. Donc il y a des choses qui vont sortir, des documentaires, etc. Et puis des collectifs qui se créent dans différents endroits. Mais nous, on a vraiment vécu le contexte d'intimidation et de répression. C'est quelque chose qui nous a marqué quand on est allé cet été à ces rencontres. On avait été à Bure avant, on a été à Notre-Dame-des-Landes, on a été donc dans des lieux très de répression, mais en fait on ne s'attendait pas du tout à ça. là-bas. Et du coup, il y a même eu, du coup, là, en début octobre, une manifestation d'organiser pour la liberté d'expression sur le territoire où, du coup, Telt, cette pieuvre qui gère tout le Lyon-Turin, en fait, met la main sur la gestion des subventions publiques, sur tout un tas d'aspects. Et nous, du coup, depuis Marseille, on peut soutenir ces luttes. D'abord, en s'informant, il y a un site internet https://stopaulyonturin.fr qui présente bien ce qui se passe. Il y a plusieurs... il y a une bibliographie qu'on pourra mettre qui explique un peu l'historique. On fera une soirée prochainement aussi sur le sujet à Marseille. Voilà. Et bon, voilà, l'important, c'est, je pense, d'en parler autour de soi.
Allez, un dernier mot, parce qu'après, ça va être la fin.
C'est juste pour la petite histoire par rapport aux rencontres nomades de chorale de cet été. En fait, on était censé donc aller à Albier, en Maurienne, Albier le Jeune. Et en fait, deux semaines avant, le maire nous a dit non, vous ne pouvez pas venir. On était sur un terrain municipal. Et en fait, l'histoire, c'est que... Eh ben, il a eu des pressions. Le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est aussi le président de la communauté d'agglos, le préfet, les RG, je crois qu'on appelle ça RT maintenant, je ne sais plus, qui leur ont dit « Oh, mais c'est des dangereux activistes, ils sont déjà allés à Bure, ils ont fait des actions. » Et pour vous dire, à Bure, bon, on a chanté devant l'Andra, une action quand même... qui a du chien, et on est allé chanter dans les lavoirs pour les habitants des villages d'à côté. Donc voilà, ça c'est juste pour dire les pressions qu'il y a au niveau des municipalités, parce que le maire nous a dit moi je peux pas engager ma commune dans une action militante, sinon je vais avoir des problèmes, perdre des subventions et tout ça. Donc voilà, pour vous raconter les pressions qui existent.
Et oui, la répression continue, mais les luttes aussi, c'est important de le rappeler. Et donc demain, nous diffuserons l'intégralité de l'émission que vous avez fait cet été de la lutte enchantée, donc dans la vallée de la Marienne, où on entendra plein de chants aussi, très belle émission. Donc à 16h sur Radio Galère. Cet agenda.
Et alors, c'est l'agenda qui commence. On va juste commencer avec une proposition d'un film qui a été tourné en Cisjordanie occupée en 2022. Ça s'appelle Where Olive Trees Weep, là où pleurent les oliviers, et c'est disponible en ligne.
Alors très rapidement les infos pour aller à Marseille, il va falloir choisir ce soir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc à 18h30 à Manifesten, donc c'est au 59 rue Thiers dans le premier, il y a la Lucha Continua, une soirée de soutien au peuple du Chili en lutte, 5 ans après le soulèvement populaire au Chili.
Aussi ce soir à 19h à la librairie Transit, 51 boulevard de la Libération à Marseille. Présentation du livre Chronique de Kanaki, 13 mai 10 juillet 2024.
Et pour en rester sur le soutien au peuple du Chili au Jardin Leva, il y a des projections de films à partir de 19h ce soir. Mais aussi à la librairie Lydre aux mille têtes. 96 rue Saint-Savournin, il y a une rencontre avec Félix Tréguet autour de son ouvrage Technopolis.
Et on continue avec samedi 19 octobre à 21h à la DAR, 127 rue d'Aubagne, il y aura une soirée de soutien au local du collectif El Mamba.
Et dimanche à la Plaine, une cantine prix libre en soutien aux déplacés du Liban. Ça sera à l'angle nord-est, pas loin du terrain de pétanque. La cantine est à prix libre et l'argent récolté sera reversé à la cagnotte Liban Unité Secours d'Urgence.
Et toujours dimanche 20 octobre, à partir de 14h à la Plaine, on aura des concerts de soutien anti-REP, en soutien aux personnes qui sont en procès contre Carrefour, plutôt Carrefour leur fait un procès, contre des autoréducs qui avaient été faites il y a quelques années. En solidarité avec les camarades, venez manger à prix libre et écouter de la bonne zik.
Ou sinon, vous pouvez aller à la Friche dimanche après-midi où il y aura le festival Les Instants Vidéo qui se transforme en musée de solidarité pour accueillir la 8e biennale d'art vidéo de Palestine.
Et c'est pas fini, lundi 21 octobre à 19h à la librairie Transit, présentation du livre 10 questions sur les féminismes noirs avec Fania Noël, autrice et militante afroféministe.
Et puis une petite permanence quand même, on la dit pas tout le temps, ça sera, c'est tous les mercredis de 16h à 20h à l'imprimerie au 60 rue Edmond Rostand à Marseille. Bah, il y a une permanence et il y a pas mal d'ateliers, c'est ça, stickers et compagnie.
Tu peux venir imprimer tes affiches, scanner, photocopier, allez-y, et en plus les personnes sont chouettes.
Ah ouais, on pourrait venir faire des stickers pour Radio Galère, allez, faudrait qu'on fasse un de ces quatre.
Allez.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Louise et Michel.
Merci à vous.
Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de Grèce la semaine prochaine.
Salut.
Et un grand merci à la technique.
C'est fini pour aujourd'hui.
Cécile, à la réalisation technique pour la première fois. Bravo, grand merci.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.